Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Qu'y avait-il dans les fumées noires de l'incendie de l'usine Lubrizol? Les émanations de plus de 5000 tonnes de produits chimiques, on en connaît la liste désormais qui inquiète un expert en chimie à qui on l'a montré. Et on verra que l'effort de transparence des autorités ne convainc pas tous les habitants de Rouen et de son agglomération. Certains qu'on leur cache encore des choses, on y reviendra évidemment avec l'invité du grand entretien.
Oui, il s'agit ce matin de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Vous pouvez évidemment lui poser toutes les questions que vous désirez. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
À la une de l'actualité, également des policiers qui en ont marre de travailler avec des bouts de ficelle. Ils sont attendus en nombre dans les rues de Paris aujourd'hui. Les médecins en première ligne pour détecter les violences conjugales. Il faut qu'ils soient plus attentifs, leur demande la Haute Autorité de Santé. L'île de Lesbos est l'enfer du camp de migrants de Moria. Cécile Duflo, sur place, nous racontera ce qu'elle y voit. Et puis pour sourire un peu, on ira à la Comédie Française pour un Feydeau mené tambour battant, fou rire garanti.
France Inter.
Depuis 2017, il est interdit de communiquer sur les produits stockés dans les usines Seveso. C'est une question de sécurité face aux risques terroristes. Mais devant l'angoisse des habitants de Rouen et des alentours, devant leur sentiment qu'on leur cache la vérité, la liste des produits chimiques contenus dans l'entrepôt Lubrizol qui a brûlé jeudi a finalement été révélée par le préfet de Seine-Maritime hier soir. Plus de 5200 tonnes de ces produits sont partis en fumée. Tous ne sont pas dangereux, dit le préfet, ce qui veut dire en creux que certains le sont. Jérôme Jadot a demandé son avis à un expert, la liste sous les yeux.
Principal produit parmi les 5253 tonnes parties en fumée, les additifs dits multi-usages. L'entrepôt abritait aussi des dispersants, détergents, solvants, améliorants de viscosité. Une liste longue, technique, qui n'a pas du tout rassuré Frédéric Poitou, expert judiciaire en chimie et pollution.
C'est un inventaire à la Prévert des substances toutes plus toxiques, dangereuses et explosives les unes que les autres. Il y a tous les cocktails, toutes les substances qui sont prêtes à réagir les unes avec les autres à de forts niveaux de température et de pression pour générer tout un tas d'acides inorganiques extrêmement toxiques, surtout quand ils sont à l'état gazeux. Et puis toutes les dioxines qu'on va retrouver nécessairement dans les suies quand elles vont être analysées. Des dioxines.
Selon le communiqué de la préfecture, la dangerosité de ces produits dépend notamment de la manière dont on est exposé. Elle envisage de compléter, si nécessaire, les prélèvements effectués dans l'air, l'eau, les sols et les aliments.
Et outre ces produits incendiés dont on va rechercher les traces dans les sols, le préfet de Seine-Maritime annonce que 160 fûts endommagés restent à évacuer sur le site de Lubrizol. Et pendant qu'il donnait sa conférence de presse hier soir, 2000 personnes défilaient dans les rues de Rouen, persuadées, toujours persuadées, qu'on ne leur dit pas la vérité. Thibault Lefèvre leur a tendu son micro.
Les représentants de l'État cherchent depuis jeudi à rassurer. Véronique aurait préféré être informée.
On nous prend pour des andouilles, mais c'est incroyable. Et je suis vraiment malheureuse parce que j'ai toujours cru en la politique. Je crois vraiment plus en ces gens-là et c'est quand même très grave.
Mais vous n'êtes pas complotiste ?
Non, je suis flûtiste. Ce que vous voulez que je vous dise, je suis plutôt cool comme fille en général. Mais il faut vraiment arrêter de se foutre de nous.
Une défiance récente pour cette professeure d'une cinquantaine d'années qui participe depuis quelques semaines aux marches pour le climat.
Il y a un toit d'amiante qui a cramé et on nous dit que c'est pas grave. Pourquoi les pompiers qui étaient sur le site, ils sont malades là? À l'hôpital, ils ont déclenché le plan blanc. On nous a rien dit. Un peu de transparence, un peu de décence.
Les autorités ont communiqué sur l'amiante.
Manger des pommes.
Un trait d'esprit qui fait sourire Bernard, le mari de Véronique. Il avoue pourtant avoir désormais très peur.
Pour cette fois-ci, le coup est parti. Cependant, à 60 km d'ici, il y a deux centrales nucléaires. Si demain c'est géré comme ils ont géré cette crise, on est statistiquement mort, ou tout au moins contaminé. Ça fout la trouille.
Plus proche de Rouen, les sites Seveso, classés seuil haut comme Lubrizol, il y en a 7 dans l'agglomération.
Dont l'usine d'engrais chimiques Borealis, mise à l'arrêt hier à cause d'un incident sur son alimentation électrique. Depuis jeudi et l'incendie chez Lubrizol, plus de 40 plaintes ont été déposées selon le parquet de Rouen qui s'est dessaisi de l'enquête au profit du pôle de santé publique de Paris. Paris où du plomb a été détecté dans la gare d'Austerlitz. Les travaux du chantier de rénovation de la gare sont sont à l'arrêt. La SNCF accuse l'entreprise chargée du déplombage des vieilles peintures d'avoir manqué à ses obligations. Mais cette même entreprise, dans le journal Le Parisien, affirme que c'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme après avoir fait mesurer des taux de plomb 40 fois supérieurs à la normale, y compris sur les quais et près des sandwicheries.
Il est 8h05. Tous les corps de la police, tous les grades, Florence, appelés à manifester aujourd'hui à Paris.
Appel lancé par une vingtaine de syndicats et d'associations unis pour la première fois depuis 20 ans. Ils attendent au moins 10 000 participants venus de toute la France pour réclamer entre autres de meilleures conditions de travail. Car voilà à quoi ressemble le quotidien des policiers, selon Grégory Geron, secrétaire général délégué d'unité SGPFO, au micro d'Ariane Grissel.
Ça va de la voiture qui a 250 000 km à tout simplement une imprimante qui ne marche pas ou à des collègues qui sont même obligés dans certains commissariats d'amener leur ramette de papier pour pouvoir imprimer leurs procédures. C'est une question de budget, c'est une question d'utilisation des moyens, une question d'équilibre, mais aussi au-delà de ça, une question de reconnaissance. Il n'y a pas que l'argent non plus, hein. On ne veut pas faire une manifestation pour encore demander des milliards et des milliards, on veut aussi faire une manifestation pour dire que les policiers ils ont aussi besoin de reconnaissance face aux agressions qui sont en constante augmentation, que ce soit en service ou hors service malheureusement, parce que les cas de policiers ou personnel administratif, technique, scientifique reconnus en dehors de leur service qui se font agresser parce qu'ils sont identifiés comme étant et appartenant à ces corps, donc en constante augmentation. On a besoin de protection et on a besoin de preuves que notre ministère nous soutient. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas assez palpable. Donc la marge de la colère, c'est pour exprimer tout ça et espérer qu'on sera entendu rapidement.
Et les policiers demandent aussi un accompagnement social alors que 52 d'entre eux se sont suicidés depuis le début de l'année. Ils réclament enfin le maintien de leur régime de retraite. Un plan d'urgence pour sauver l'hôpital. Cette fois, ce sont des personnalités qui volent au secours des soignants au-delà des urgences. Dans une lettre ouverte au président Macron, 108 chanteurs, acteurs, intellectuels qui connaissent l'hôpital réclament l'ouverture de lits, l'embauche de personnel et une hausse des salaires. Là, on parle des médecins de ville, des infirmières ou des kinés qu'on voit régulièrement dans leur cabinet, appelés à mieux repérer les violences conjugales. La Haute Autorité de Santé leur fait des recommandations ce matin pour ne pas passer à côté de ces violences qui ne sont pas dites spontanément, Véronique Julia.
D'après la Haute Autorité de Santé, 30 à 40% des femmes qu'on trouve dans les salles d'attente des médecins seraient victimes de violences conjugales. Mais ces violences ne sont pas forcément visibles. Elles peuvent être sexuelles, psychologiques ou même économiques. Le professionnel de santé doit donc apprendre à ouvrir le dialogue et à systématiser la question. Comment vous sentez-vous à la maison? Avez-vous peur de votre partenaire? Peur pour vos enfants? Vous sentez-vous parfois humilié ou insulté? Question à poser a fortiori si des signes cliniques éveillent les soupçons. Addiction, dépression, état d'anxiété, douleurs récurrentes ou consultations fréquentes avec des plaintes inexpliquées. Mention spéciale chez le dentiste qui doit forcément réagir en cas de fracture dentaire ou de prothèse. L'attitude d'un conjoint présent à la consultation et qui répond à la place de la patiente doit également alerter. Tous les milieux sont concernés. Mais le repérage, précise la Haute Autorité, est encore plus difficile dans les publics favorisés. Ces recommandations s'accompagnent d'un volet très pratique qui comprend les mesures de protection et de signalement à mettre en œuvre. Il est conseillé aussi de poser des affiches en salle d'attente pour inciter celles qui n'oseront pas parler à leur médecin à composer de façon anonyme le numéro 3919 pour les violences faites aux femmes.
En France, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex en 2018. 219 000 disent avoir subi des violences dans leur couple. Deux commissaires européen recalé par les eurodéputés, le hongrois et la roumaine pour conflit d'intérêts. Qu'en sera-t-il de la française Sylvie Goulard, censée assumer le portefeuille du marché intérieur? Elle joue sa place aujourd'hui au cours d'un grand oral devant les députés à Bruxelles. Il pourrait bien la bousculer, Marie-Pierre Véraud, avec au moins deux questions qui fâchent.
Il y a d'abord les emplois fictifs présumés du MoDem qui pourraient venir hanter l'audition de Sylvie Goulard. La justice française et l'Office européen de lutte anti-fraude sont saisis. Mais les émoluments qu'elle a reçus pendant 2 ans en tant que conseillère spéciale de l'Institut Berggren, un think tank américain, intéressent aussi les eurodéputés. Plus de 10 000 euros par mois, 300 000 au total, pour un travail dont Sylvie Goulard n'a pas fourni de preuves éclatantes. Ce qui, selon le député européen Yannick Jadot, nourrit le soupçon.
Donc potentiels conflits d'intérêts qui pèseront tout au long du mandat si elle devait être confirmée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prendra une décision qui pourrait concerner des entreprises américaines, vous avez toujours des détracteurs qui diront est-ce que c'est lié au fait qu'elle a touché pendant des années 10-12 000 euros par mois sans faire grand-chose d'un milliardaire américain.
Sylvie Goulard, qui doit embrasser un portefeuille alliant l'industrie, la défense, le marché intérieur, le numérique, devrait donc subir un interrogatoire public serré. Mais son cas n'est pas isolé. Un tiers des eurodéputés disposent en effet d'un travail rémunéré en dehors de leur mandat. Ils sont même une cinquantaine à gagner plus de 10 000 euros chaque mois, soit davantage que leurs émoluments d'élus. Tous les partis sont concernés. Au-delà des mots, aucun n'a donc vraiment intérêt à faire chuter la candidate française.
Et si l'Irlande du Nord restait dans le marché unique européen jusqu'en 2025, tout en formant une union douanière avec le Royaume-Uni, est-ce que ça passerait? C'est la proposition que compte faire Boris Johnson aujourd'hui à l'Europe. Une offre finale pour obtenir un accord sur le Brexit qui bloque sur cette question irlandaise. Sauf que le même genre de dispositif a été envisagé l'an dernier et rejeté à la fois par les unionistes irlandais et par les Européens.
Il est 8h11. Partons maintenant pour le plus grand camp de migrants d'Europe.
Il se trouve sur l'île de Lesbos en Grèce, un camp comme un cimetière, disent ceux qui y survivent. Ils ont manifesté hier après un incendie mortel la veille. Ce camp est une honte pour Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France, sur place pour son ONG qui lutte contre les injustices et la pauvreté.
La situation se dégrade beaucoup et elle se dégrade très logiquement puisqu'il y a plus de 13 000 personnes, dont environ 40% d'enfants, dans un camp qui a été ouvert et prévu pour 3 100 personnes. Donc je pense que tout le monde comprend que la situation est structurellement intenable. Au départ, c'était une zone bien délimitée avec des préfabriqués. Maintenant, il y a des tentes et des espèces de baraquements qui s'étendent partout au milieu des oliviers, pas du tout de manière organisée. Il y a des ordures absolument partout, y compris au-dessus des endroits où il y a les points d'eau. Enfin, c'est un état d'insalubrité. J'ai rarement vu un camp dans une situation sanitaire et d'organisation aussi dramatique. Il y a un médecin pour 13 000 personnes. Pour avoir accès à la nourriture, il leur faut faire la queue parfois depuis le matin. Et on est pourtant en Europe, on est en Grèce, on est dans un pays et on est sous la responsabilité d'une politique européenne. Donc il faut que les habitants d'Europe sachent que ça c'est fait en leur nom.
Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam, qui répondait à Mathilde Munoz dans le 5-7 de France Inter ce matin. C'est l'histoire d'un coup de fil qui n'a pas eu lieu, raconté par un diplomate à l'agence France Presse. Cet appel, c'est celui que Donald Trump a tenté de passer au président iranien en marge du sommet de l'ONU la semaine dernière. Emmanuel Macron avait tout organisé, fait installer une ligne sécurisée entre les hôtels des deux chefs d'État. Mais si Donald Trump a bien passé l'appel à l'heure dite 21h ce mardi 24 septembre, Hassan Rouhani ne l'a pas pris. Les Iraniens exigent une levée des sanctions américaines avant tout contact. Donald Trump qui joue la surenchère face à la procédure de destitution des démocrates qui le menacent. Un coup d'État, tweet-il, qui vise à prendre le pouvoir du peuple et ses droits qui lui ont été donnés par Dieu. Et puis après avoir annoncé des discussions avec Washington samedi, la Corée du Nord a tiré de nouveaux missiles cette nuit dans la mer du Japon. L'un d'entre eux serait tombé au large de la préfecture de Shimane. L'ombre du dopage sur les mondiaux d'athlétisme de Doha plane sur les athlètes entraînés par l'américain Alberto Salazar, accusé de trafic de testostérone et suspendu hier pour 4 ans. Donovan Brazier, 22 ans, est l'un de ses athlètes. L'américain a décroché l'or aux 800 mètres hier soir après 1 minute 42 secondes de course éblouissante.
Et ça sent bon pour le PSG.
Et oui, la route est droite et la pente pas si rude pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a gagné hier soir 1-0 à Istanbul sur le terrain du Galatasaray. Un but signé Icardi, nouvelle recrue du club. Il est argentin. Et puis on signalera ce score impérial du Bayern à Tottenham, finaliste l'an dernier mais battu 7-2 hier soir à domicile. Avant de parler du rugby, Nicolas, et du deuxième match des Bleus en Coupe du Monde au Japon. Rendez-vous à 9h45 face aux États-Unis.
Et des quiproquos, des portes qui claquent, Florence.
Du fédo, en oui. Somme, pour finir. Quand c'est raté, c'est affreux, mais quand c'est réussi, c'est jubilatoire. Oui. Et apparemment, on rit à s'en décrocher la mâchoire devant la puce à l'oreille à la Comédie Française. Mise en scène signée Lille au bord et grand succès en perspective, Stéphane Capron.
C'est sur un air de mambo que se joue cette version 2019 de la puce à l'oreille, dans un décor des années 60. Les gags sont tellement énormes que les comédiens ont bien du mal à éviter les fous rires, comme Anna Servinka.
Ça m'est déjà arrivé de rire en regardant Pauline. Tout d'un coup, je la sens prise par cette histoire de bretelles qu'il faut trouver une solution. Et là, on peut avoir quelques petits fous rires. Ou comme c'est très sportif, aujourd'hui, je suis tombée, par exemple. Je crois que les spectateurs, où ils ont cru que je tombais vraiment, j'ai senti qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient rire ou pas.
Serge Bagdassarian et le mari sont de bise dans cette pièce au rythme fou. Il interprète deux rôles qui mettent en relief la langue singulière de Fédo.
Fédo, s'il y a un A, point d'exclamation, ça ne peut pas être un O, c'est un A, et ça a des répercussions partout. C'est très très précis, c'est une écriture incroyablement acérée. Là en plus, il y a deux personnages, deux façons de parler, deux écritures différentes. L'oralité est incroyable, évidemment. Et puis le rire, on voit que ça fait mouche, quoi. Il est incroyable, c'est un vrai magicien.
Je vous demande pardon, je comprends pas bien ce que vous dites.
Mention spéciale au jeune pensionnaire Jean Chevalier, qui interprète le cousin Chant de Bise. Fédo a écrit une pièce où le comédien ne prononce que les voyelles, une sacrée performance.
Eh ben, ça donne très envie.
Ah, vraiment, oui.
On rit pas toujours à gorge déployée à la Comédie Française.
Mais là, ça a l'air d'être le cas.
Bon, ben voilà, voilà. On y va.
Merci, on rit toujours bien à la fin de vos journaux. La puce à l'oreille de Fédo jusqu'au 23 février 2020.